Radio Kapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bossouma. Voici le sommaire. Vive émotion mélangée de colère, c'est ce qu'ont ressenti les membres des familles des 27 victimes de l'attaque de mardi à Oicha au Nord Kivu. C'était hier pendant la cérémonie d'inhumation. Certains corps ont été amenés à Mbau, d'autres à Butembo où ils ont été inhumés. Entre-temps, les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête. Dans l'actualité aussi, la hausse unilatérale du prix de transport en commun par certains conducteurs de Kinshasa, il l'explique par la hausse du prix du carburant à la pompe, mais il y a aussi certains qui continuent d'appliquer le tarif normal. Nous faisons le point avec Babel Pongo dans ce journal. Et puis, la ville de Lubumbashi abrite depuis hier le colloque international de l'Association des études africaines d'Afrique. Au premier jour, la question de la valorisation des langues locales africaines s'est invitée au débat. Pour en parler, nous recevons le professeur Ngoma Binda, professeur d'université. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu, dans le territoire de Beni. Inhumation hier à Oicha et des localités voisines. Des 27 personnes tuées lundi dans une attaque attribuée aux rebelles des EDF à Oicha. Des cérémonies empreintes d'émotion pour ces familles durement touchées par ce énième massacre des civils dans la région. Reportage signé Martial Papi Mukeba.
Forte émotion ce mercredi, mais aussi beaucoup de colère parmi les membres de famille des victimes de l'attaque lundi qui a coûté la vie à 27 personnes dans la région d'Oicha. Certains corps ont été amenés à Mbau, d'autres à Butembo où ils ont été inhumés. Cette femme, qui a perdu 3 membres de sa famille dans cette attaque, se rappelle de ce qui s'était passé.
Il vivait à Kiabusiku, à côté de là où se trouve une position des FARDC. Les assaillants avaient commencé par là. Ils avaient demandé aux gens d'ouvrir les maisons. Ils ont tué 3 enfants.
Lundi soir, 27 civils ont été tués par des présumés rebelles des ADF dans les quartiers Masosi d'Oicha, considérés comme l'un des périmètres les plus sécurisés de cette commune rurale. Dans ces quartiers se trouvent les bureaux de l'administrateur du territoire de Beni, l'état-major du commissariat de la police et une position des FARDC. Non loin de là, à Bouloloma et à 3 km du lieu de l'attaque, se trouve également une autre position de l'armée. Les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu. Des violents combats opposent depuis ce jeudi matin les rebelles du M23 à la coalition des groupes armés d'une part et au FARDC de l'autre sur plusieurs fronts. C'est notamment dans la zone de Kibumba, territoire de Nyiragongo, ainsi que dans les groupements de Bambo et Bishusha, territoire de Rutshuru. Des détonations sont entendues même dans les environs de Goma. Bernardin Nyangi nous relate les faits.
Depuis tôt ce jeudi, d'intenses bombardements sont entendus dans la zone de Kanyamaoro, Bumba, Kibati et Shongi, en territoire de Nyiragongo, une dizaine de kilomètres au nord de Goma. Plusieurs sources dans la zone parlent d'usage d'artillerie lourde par l'armée congolaise. Des sources militaires affirment que le but est d'empêcher un passage des rebelles du M23 qui, la nuit, tentaient d'infiltrer la zone de Goma en passant par Mutao dans le parc national de Virunga. Ces tirs à armes lourdes sèment une fois encore la panique dans la zone. Mais les rebelles du M23, dans leur compte X, parlent des attaques simultanées des FARDC et les groupes armés locaux contre leur position. Du côté de la chefferie de Buito, territoire de Rutshuru, c'est encore une panique dans le groupement de Bambo et Bishusha. Des coups de balles entendus vers 1h ont encore repris avec plus d'intensité depuis 5h autour de Shoni, Kazinga, Rushashi et Ruza, où les groupes armés locaux se battent contre les rebelles du M23. Aucun bilan de ces affrontements n'est encore disponible. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Kapi.
Nord Kivu toujours, la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est et EACRF appelle les FARDC et les rebelles du M23 au retour à l'accord de cesser le feu. Le commandement de cette force a réagi pour la première fois à cette reprise des hostilités depuis quelques semaines dans la zone. Ce, à travers un communiqué de presse hier mercredi. Un élément kényan de cette force a été tué mardi dans ces combats, nous dit Sifa Maguru.
Ce communiqué est rendu public ce mercredi 25 octobre pendant que cette force est rapatriée à Nairobi au Kenya le corps de l'un de ses membres, John Ndao, du contingent kenyan. Celui-ci a été tué par un projectile mardi pendant les combats entre l'armée congolaise et la coalition de groupes armés locaux contre les rebelles du M23 et leurs alliés dans le groupement de Buhumba en territoire de Nyiragongo. Dans ce communiqué, la force régionale parle pour la première fois de la violation de l'accord de cessez les feux entre les FARDC et les rebelles du M23 est dictée par les chefs d'État membres de l'EAC. Une base de cette force située à Kanyamaoro dans la zone de Kibumba a été prise dans le feu croisé occasionnant des dégâts humains dans ses rangs. Rappelons que mardi, à travers son porte-parole provincial, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, l'armée a reconnu intervenir désormais dans ce combat qui oppose depuis le 1er octobre les rebelles du M23 à une coalition de groupes armées locaux. Les FARDC et les rebelles du M23 se rejettent mutuellement cependant la responsabilité de ces bombardements de la base de l'EAC à Buhumba. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Au sud Kivu voisin, la population du territoire de Mwenga dénonce des cas d'insécurité devenus récurrents dans la ville de Kamituga. Le dernier cas en date remonte à quelques jours quand un négociant des minerais d'or a été attaqué et a perdu tout son argent et d'autres biens. Ainsi, l'association des négociants de minerais de Kamituga exige la permutation des éléments des services de sécurité qu'ils accusent de ne rien faire pour protéger les personnes et leurs biens. Le président Songa Iluba dans ses propos recueillis par Emmanuel Elameji.
Il ne passe plus une semaine sans que nous enregistrons les cas de tuerie, de blessures par balles ainsi que les pillages des négociants d'or perpétrés par les hommes armés. Aujourd'hui, nous vivons dans une insécurité totale due par le fait que ceux qui sont censés protéger la population civile et leurs biens sont devenus commerçants, exploitants, artisanaux et d'autres sont supporters de puits d'or. Et nous continuons à souffrir car les cas de vol s'augmentent du jour au jour. Tous les cas des vols à main armée se passent dans les centres-villes où les bandits opèrent. Même un coffre-fort de plus de 50 kilos sans inquiétude de ce qui précède. Nous sollicitons que les audiences foraines soient organisées ici à Kamituga pour tous ceux qui sont cités et soupçonnés dans les cas de pillage et tuerie des négociants dans la ville de Kamituga et territoire de Mwenga.
Province du Tanganyika, la ville de Kalemie en proie au banditisme urbain depuis quelques mois. Des jeunes délinquants en bande organisée tracassent la population. Certaines sources signalent l'existence de plusieurs groupes. C'est notamment B6, B13, KOF, KS, Royaume City et tant d'autres. Ces jeunes s'enivrent souvent d'alcool frélaté. Ils violent, volent, extorquent les biens et terrorisent la population. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Tanganyika annonce que les services de sécurité traquent régulièrement ces jeunes délinquants, Paulin Munanga.
Le groupe B6 est constitué des jeunes délinquants qui sèment la terreur au quartier Kapangula. Quant au B13, il comprend essentiellement des jeunes qui vivent au camp marin de la force navale, indiquent certaines sources. La bande dénommée KOF comprend les jeunes désœuvrés qui terrorisent le quartier Kalumbi. Les mêmes sources signalent que Royaume City est un groupe constitué de jeunes qui extorquent téléphones, argent, bijoux des femmes qui se rendent souvent au marché Kisebwe. Ces délinquants ont comme point stratégique l'ancien pont Lukuga. Après avoir commis leur forfait, ils utilisent ces couloirs pour disparaître dans la nature. Le groupe qui se trouve à côté de la morgue SNCC s'occupe du lavage des véhicules et motos. Et ces jeunes en profitent pour tracasser la population. Le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika confirme l'existence de ces bandes de jeunes qui sèment la terreur et la désolation au sein de la population. Dieudonné Kasaka indique que la plupart de ces jeunes sont régulièrement arrêtés. Cependant, il déplore le fait que certains d'entre eux sont souvent relâchés par les services de sécurité. Kalemi Pole Munanga, Radio Okapi.
Comme dit dans le sommaire, parlons à présent de cette hausse unilatérale du prix de la course en taxi et taxi-moto par certains conducteurs dans la ville de Kinshasa. Il l'explique par celle du litre du carburant à la pompe. Certains clients se plaignent, mais sur terrain, on trouve aussi des conducteurs qui continuent d'appliquer le tarif normal. Babel Pongo Massimango nous fait le point de la commune de Kintambo.
Sur terrain, on trouve les deux. Ceux qui continuent d'appliquer le tarif habituel.
Ici, jusqu'à Sanef, c'est 1 000 francs. Oui, d'habitude, c'est toujours comme ça.
et ceux qui ont haussé le prix de façon unilatérale. Ces derniers affirment le faire pour ne pas travailler à perte.
Hier, la course coûtait 1 000 francs congolais. Aujourd'hui, c'est à 1 500 francs congolais. C'est pour que je gagne aussi quelque chose à manger.
Certains clients trouvés à bord de véhicules disent ne pas avoir de choix. Ils paient la course au nouveau tarif.
Généralement, on paye 1 000 francs, mais aujourd'hui, on nous dit que c'est 1 500. Je n'ai pas de choix parce que je dois partir. Il ne faut pas que je sois en retard, quoi.
Certains autres, comme cette dame, debout au croisement des avenues Massamba et Oyuat, se plaignent de ne pas disposer de la somme demandée.
Le chauffeur nous a dit brusquement que le transport est devenu 1 500. Maintenant, nous n'avons pas les 1 500 là, subitement, comme ça, on va faire comment? On fait les pieds ou on va faire comment? Il faut qu'on donne le communiqué la nuit que demain, le transport sera autant. On va se préparer comme ça, en tout cas, c'est faire souffrir la population, c'est pas bon. Je viens négocier, les chauffeurs qui vont pouvoir nous transporter, nous sommes à dire, à 2 500, on peut monter, mais 3 000 là, on n'en a pas.
Sachez que dans certains coins de la ville, la course est passée à 2 000, voire plus selon les trajets.
Et puis, le sommet des trois bassins s'est ouvert aujourd'hui à Brazzaville pour 3 jours. Objectif, renforcer la gouvernance mondiale pour mieux protéger les bassins de l'Amazonie, du Congo et celui du Mékong en Asie du Sud-Est. À côté des dirigeants des pays et des délégations internationales de haut vol, plusieurs acteurs de la société civile y participent aussi. Le cas d'Espoir Balangalizi, jeune ambassadeur du climat originaire du Sud-Kivu. Il explique ici ses attentes par rapport à ce sommet et quelle devrait être la priorité de la RDC en matière d'environnement. Espoir Balangalizi est au micro de Cynthia Bachizi.
Bon, en fait, notre participation en tant qu'ambassadeur, en tant que défenseur de l'environnement à ces grands sommets des trois bassins, dans un premier temps, c'est juste pour accompagner les gouvernements ou les décideurs à prendre des positions ou des solutions idoines auxquelles ils vont respecter dans l'avenir. Alors, notre accompagnement, dans un premier temps, on peut parler de la justice climatique qui fait défaut actuellement au niveau du bassin du Congo, vu les crimes qui ont été commis au niveau du bassin du Congo dans des parcs, mais aussi dans différentes aires protégées au niveau du bassin du Congo.
Quelle est aujourd'hui la priorité à laquelle devrait s'attaquer le gouvernement congolais en matière d'environnement, selon vous?
En matière d'environnement, selon nous, les pays d'abord doit intégrer dans leur système éducatif l'éducation environnementale. C'est une urgence et c'est une priorité.
Dans la province du Maniema, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, poursuit avec sa série d'ateliers de renforcement des capacités sur l'assainissement du climat des affaires. Après la cellule provinciale du climat des affaires, hier c'était le tour des opérateurs économiques du secteur de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et de l'industrie. De quoi était-il question? Réponse avec Michel Maswapi, directeur en charge du climat des affaires à l'ANAPI. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Nous avons besoin de toutes les potentialités de la province, territoire par territoire, les difficultés que ces opérateurs économiques rencontrent pour arriver à mettre en valeur toutes les potentialités que nous avons au niveau de notre province du Maniema et les opportunités d'investissement. C'est bien beau d'avoir les potentialités, mais il faudra transformer ces potentialités en richesse réelle. Et pour les transformer, il faudra mettre à disposition des investisseurs, des bailleurs, des opportunités d'investissement. Et enfin, ils doivent nous donner les menaces qui guettent la province si on n'arrive pas à résoudre le problème des différentes difficultés qui guettent tous ces opérateurs économiques-là. Ça nous permettra aujourd'hui de mieux faire la promotion spécifique de la province. Dès que nous avons les potentialités, les opportunités, nous allons attirer les investisseurs congolais et même les investisseurs directs étrangers. Alors, pour ce qui concerne les doléances, les difficultés des opérateurs économiques, ça va permettre à l'ANAPI, comme conseiller du gouvernement en matière du climat des affaires, d'opérer des réformes structurelles et systémiques pour permettre vraiment aux opérateurs économiques de ces 4 secteurs d'activité de transformer tout ce que nous avons comme potentialité en richesse réelle.
Actualité internationale.
Le nombre de personnes déplacées à cause de la guerre, des persécutions, de la violence et des violations des droits de l'homme dans le monde a probablement dépassé 114 millions fin septembre, un nombre record, a déclaré le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, dans un communiqué mercredi. En Afrique du Sud, les quelques 500 mineurs sud-africains restés sous terre depuis lundi à la suite d'un conflit entre syndicats rivaux sont tous remontés à la surface hier. La direction de la mine d'or Goldwane et l'un des deux syndicats impliqués, la NUM, affirme que ces mineurs étaient retenus en otage. La MCU, syndicat rival de la NUM, affirme qu'une majorité écrasante des mineurs ont signé pour adhérer à son syndicat, mais que la direction de la mine d'or Goldwane leur refuse une représentation officielle, ce qui a déclenché un mouvement social.
L'invité.
Il s'agit de Ngoma Binda, professeur d'université. Il participe au colloque international qui se tient à Lubumbashi, organisé par l'Association des études africaines d'Afrique. Au premier jour de cette rencontre des scientifiques, la question de la valorisation des langues locales africaines s'est invitée au débat. Pour le professeur Ngoma Binda, cette question est éminemment politique qui requiert du courage. Il s'entretient avec Jean Gandou.
Professeur Ngoma Binda, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que les Africains peuvent arriver un jour à s'approprier leur propre langue pour véhiculer leur propre pensée?
Oui, ils peuvent arriver. Ça prendra du temps. Il faut qu'il y ait pour cela une grande volonté politique. Vous savez, nous avons eu ici dans notre pays la politique de l'authenticité. Beaucoup l'ont malheureusement rejeté parmi les intellectuels, notamment les prêtres. C'est une erreur grave. C'est cette politique-là qui aurait pu nous amener à nous approprier nos langues. Ici, même à Lubumbashi, on avait les scientifiques, les linguistes qui ont fait un colloque important sur la possibilité d'avoir des langues africaines valorisées, nos quatre langues nationales. Mais malheureusement, avec plus tard la mort de Mobutu et aussi la menace qu'il recevait de la part des tenants du français, il a dû peu à peu relâcher. Donc c'est une question éminemment politique qui demande de la volonté politique pour nous Africains, mais aussi vis-à-vis de la France qui est le propriétaire de cette langue française que nous utilisons, c'est un enjeu important. La France considère que le Congo est le plus grand pays francophone et ça doit demeurer francophone. Donc nous sommes dans une situation où il y a manque de volonté de la part de nous autres et où il y a pression de la part des autres.
Mais ce n'est pas seulement la RDC, ce sont tous les pays africains qui connaissent le même problème.
Tous les pays africains, je me rappelle que le Madagascar avait à un certain moment initié la politique de la malgachisation, mais combattu énormément par les Français et donc ils sont revenus finalement. Et ailleurs, on ne pouvait même pas parler du Sénégal, parce que déjà le Sénégal, même si Léopold Sédar Senghor parlait de la négritude, mais il ne voulait pas non plus valoriser les langues africaines parce qu'il était sous la pression des colonisateurs.
Quelle serait en fait la panacée?
Le remède, c'est initier cette politique de pouvoir nous prendre en charge sur tous les plans, même sur le plan linguistique. Ça peut se faire si l'homme politique a cette volonté-là de pouvoir nous amener vers l'utilisation de nos quatre langues à l'école primaire, à l'école secondaire et même à l'école supérieure. Et à l'université. En Tanzanie, on le fait, on apprend en Swahili. Pour nous qui sommes des universitaires, si nous voulons évoluer dans le monde. Mais carrément, nous changeons du français vers l'anglais, parce que c'est l'anglais qui constitue pour le moment la lingua franca des intellectuels, des scientifiques. Pourquoi nous ne pouvons pas décider que l'université désormais doit se faire en anglais, en programmant par étapes, et d'ici 10 ans, 20 ans, on peut basculer vers l'anglais.
Mais il y a aussi les pays anglophones qui ont le même problème. Ils auraient aimé que leur langue locale soit valorisée.
Effectivement, j'aurais bien voulu, mais en même temps, pour les intellectuels, ils veulent se faire reconnaître internationalement. Pour ce faire, ils doivent faire leurs publications, enseigner, participer à des colloques en langue anglaise. C'est là le piège. Malheureusement, c'est eux aussi, à travers leurs politiciens, qui doivent opter pour l'utilisation des langues africaines. Mais le principal remède, c'est la volonté politique et le courage.
Pensez-vous qu'une thèse qui est rédigée dans nos langues locales soit facile à être soutenue et appuyée par des promoteurs étrangers?
Des promoteurs étrangers qui connaissent nos langues africaines, oui, ils peuvent le faire. J'ai parlé tout à l'heure avec une dame qui connaît bien le Swahili, mais elle est du Mexique. Elle travaille en France. Elle parle l'anglais, elle parle le Swahili. Donc, une femme comme ça peut être non seulement directrice d'une thèse de doctorat, mais également peut participer à plusieurs choses, à la promotion de celle-là. Le thèse en langue africaine, il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Mais, vous savez, chez nous, à l'Université catholique du Congo, il y avait des professeurs qui faisaient faire leur mémoire de licence en langue tetela et en langue lingala. Nous avons défendu des mémoires de licence en langue africaine. Des traductions, il y a eu des livres écrits en français vers le tetela, vers le lingala. Nous en avons fait. Mais là, c'était sous l'impulsion de Mobutu, c'est-à-dire l'inspiration de l'authenticité. C'est celle-là qui a amené les facultés catholiques de Kinshasa à pouvoir initier des traductions et des défenses des mémoires en langue africaine. Quand il n'y a pas une impulsion politique, tout taigne et même meurt.
Professeur Ngomabina, je vous remercie.
Je vous remercie, mon cher ami.
Notre invité répondait aux questions de Jean Gandou. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.